RJM Info, le journal, Claire Vigée, bonsoir.
Bonsoir, les CJI ont fait le point sur l'année écoulée hier soir. Les chemins de fer du Jura ont dû composer en 2021 avec plus qu'une seule ligne de bus contre trois auparavant. Et il a fallu trouver des solutions pour maintenir le département des transports routiers à flot. Le Jura bernois compte six nouveaux chemins de randonnée pédestre balisés. Ils offrent pour les locaux et les touristes un florilège des plus beaux paysages de la région. Les budgets présentant un résultat positif, c'est bientôt terminé pour la Confédération. Le ministre des Finances prévoit des chiffres rouges à partir de 2024, notamment en raison d'importantes nouvelles charges pour l'armée. Beau et chaud le matin, nuageux avec quelques orages et averses possibles l'après-midi. C'est le menu météo prévu pour demain. Le mercure, lui, affichera entre 24 et 27 degrés. Avant de développer ses titres, un passage par la berne fédérale où le gouvernement tire cet après-midi la sonnette d'alarme. Il n'y a pas que l'électricité qui pourrait manquer durant l'hiver prochain. Une pénurie dont l'approvisionnement en gaz est possible. Sous la coupole fédérale, une task force se prépare au scénario du pire, car la Suisse a besoin, bon an mal an, de 35 TWh de gaz, dont 30 en hiver. Elle ne produit pas de gaz et n'a pas de capacité de stockage. Elle est donc complètement dépendante des pays européens voisins qui stockent pour elle. Et le risque, c'est qu'il manque du gaz partout. Le ministre de l'économie, Guy Parmelin.
Il existe aujourd'hui un risque concret de pénurie de gaz à l'échelle européenne. La Russie, vous le savez, réduit actuellement ses livraisons de gaz. Le remplissage des réservoirs se poursuit, certes, mais il est plus lent que souhaité. Et il devient de plus en plus probable qu'ils ne pourront pas couvrir les besoins normaux durant l'hiver à venir et que notre consommation de gaz devra donc être réduite. Nous ne sommes pas encore en situation de pénurie. Toutefois, les pays européens tentent déjà de réduire leur consommation afin de permettre le remplissage de leurs réservoirs malgré ces réductions de livraison en provenance de Russie.
Le concept pour éviter la pénurie de gaz est double. Il faut d'une part économiser dans sa consommation et partout où c'est possible, commuter les installations vers le mazout. Guy Parmelin lance un appel pressant.
Si la quantité de gaz à disposition devait devenir insuffisante, il s'agira dans un premier temps de mobiliser les ménages, les entreprises, les appeler à réduire leur consommation. Parallèlement, les installations bicombustibles devront passer du gaz au mazout. La consommation de l'industrie pourra ainsi être réduite d'environ 20%. Afin de préparer cette éventualité, le Conseil fédéral en appelle d'ores et déjà aux entreprises qui exploitent ce type d'installation. Il faut impérativement, dès aujourd'hui, indépendamment des prix du marché, constituer les réserves de fioul nécessaires pour que les entreprises soient prêtes le moment venu à mettre en œuvre cette mesure, et ceci pour des raisons logistiques.
Le Conseil fédéral est prêt au besoin à contingenter la distribution de gaz, pas pour le chauffage des familles, mais dans tous les autres secteurs. Une piétonne a été renversée en début d'après-midi à Moutier. Selon le communiqué de la police cantonale bernoise, elle avait l'intention de traverser sur le passage piéton à la rue centrale lorsqu'une voiture venant du centre-ville l'a heurtée. Blessée, elle a été conduite à l'hôpital en ambulance. La police a ouvert une enquête pour clarifier les raisons de cet accident. C'était en mars 2021. Car Postal ne retenait pas l'offre des chemins de fer du Jura pour la sous-traitance de lignes de bus. Conséquence, les CJ n'exploitent plus qu'une contre trois auparavant de ces lignes. Cela a eu des conséquences. C'est ce qui a été souligné hier lors de l'Assemblée générale de la compagnie. Des solutions ont été trouvées pour maintenir à flot le département des transports routiers. Mais rien n'a été simple, selon le directeur des CJ, Jean-Frédéric Piton.
C'est effectivement un casse-tête, puisque forcément, on a dû se séparer des chauffeurs, également du vent des bus, et trouver des nouvelles recettes pour pouvoir faire le tour au point de vue financier. Surtout qu'on a un garage qui permet à être le service de piquet, lorsqu'il y en a bien sûr une panne avec les bus, mais également avec les camions, respectivement toute la flotte thermique de l'entreprise. Et c'est pour cette raison qu'on a d'abord choisi avec le conseil d'administration l'option de valoriser ses compétences et de valoriser le garage. On a même augmenté le nombre de personnel dans le garage pour avoir l'occasion d'ouvrir nos prestations de spécialistes poids lourds pour l'ensemble de la région économique, donc les gens et les entreprises peuvent venir entretenir leurs poids lourds, leurs camions dans notre garage. Et puis, on a commencé dès janvier, février, mars, et puis on a vu que ça commence à prendre. On est très content puisque notre clientèle est finalement satisfaite des prestations. Et on espère bien sûr que ça continue comme ça pour qu'on puisse devenir un partenaire pour toute la région, au point de vue économie aussi, pour l'entretien des poids lourds.
Concernant le transport ferroviaire, les chemins de fer du Jura ont su relever la tête l'an dernier après une année 2020 compliquée. Du mieux, même si tout n'est pas encore revenu à la normale, la compagnie a bénéficié de l'effervescence du tourisme local, mais également de la réouverture des écoles et des leçons en présentiel. Les exportations horlogères devraient poursuivre leur marche en avant. Le président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse s'est montré optimiste aujourd'hui lors de l'Assemblée générale de la FH à Soleure. Jean-Daniel Pache reste toutefois prudent en raison des nombreuses incertitudes comme le Covid en Chine et la guerre en Ukraine. C'est pourquoi il s'est refusé à donner des chiffres précis quant à la future croissance, d'autant plus que les fabricants de montres suisses font face aux difficultés d'approvisionnement qui touchent l'industrie et à la hausse des prix de certains matériaux. Un florilège des plus beaux paysages du Jura bernois, c'est ce que proposent 6 nouveaux chemins pédestres fraîchement balisés. Ils ont été présentés ce matin par Jura Bernois Tourisme et Berne Rando. Ces nouvelles randonnées sont balisées selon les normes de Suisse Mobile, la plateforme de mobilité douce nationale. Par exemple, pour le chemin de Chasseral, il faut suivre les autocollants verts arborant le numéro 421 et collés sur les traditionnelles flèches jaunes. La région compte 800 km de chemins pédestres. Directeur de Jura Bernois Tourisme, Guillaume Davo explique comment ont été choisis les 6 nouveaux tracés.
On a pas mal de critères d'un point de vue paysager, d'un point de vue type de chemin. On est très très attentif, Berne Rando, Suisse Mobile, Suisse Rando, sur ces critères d'accessibilité aussi. Et puis la volonté de Suisse Mobile, c'est de montrer les particularités de chaque région. Donc assez facilement avec Berne Rando, que ce soit sur des sommets, des combes, des lieux particuliers, des passages à côté de Métairie, les chemins sont dessinés assez naturellement. On travaille main dans la main depuis des années et on n'a pas eu de difficulté à trouver ces highlights. Ça a été plutôt la difficulté d'avoir un choix seulement de 7, parce qu'on pourrait en faire 15 finalement. On en aurait d'autres sous la main qui pourraient montrer aussi des spécificités, mais avec les 7... 6 cette année et 7 l'année prochaine, on est déjà très très satisfait.
Oui, un 7e parcours devrait voir le jour l'année prochaine du côté de Belley. On notera encore que le balisage de ces nouveaux chemins a été assuré par Berne Rando. Les écoliers ont répondu présents à Espace Stan. Le festival culturel pour et par les jeunes s'est terminé hier à Moutier après 12 jours de spectacles, concerts et animations. Quelques 1200 jeunes ont participé en tant que spectateurs ou acteurs. Les troupes professionnelles ont également eu du plaisir à se produire devant des enfants, comme l'explique le responsable communication d'Espace-Temps, Célien Milani.
Il y a vraiment 200 enfants qui débarquent dans le stand, qui viennent voir les spectacles, qui sont hyper sages. On a été vraiment très très heureux de voir que les élèves tenaient pendant une heure et demie devant un spectacle sans dire un mot. Ça veut dire aussi qu'on a pu choisir des spectacles qui étaient appropriés pour que, ben voilà, un enfant qui est intéressé, forcément, il va rester là et regarder. Donc, je pense qu'on a réussi à toucher là où il fallait. Après, ben, c'est sûr, quand il y a des représentations, il y a un peu moins de monde, quand c'est des tout publics, ben, apparemment, ils sont habitués. Et c'est normal que le jeune public attire moins d'adultes. Alors voilà, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. On va encore trouver des solutions pour essayer d'intégrer un maximum, que ce soit des sociétés de la région, que ce soit des gens qui viennent aussi travailler dans le festival avec nous pour pouvoir aussi échanger et puis toujours intégrer un maximum de monde dans l'organisation et dans le partage.
C'est le seul point noir au bilan. Les spectacles tout public n'ont donc pas attiré autant de monde qu'espéré, probablement en raison du beau temps et de la multitude d'autres événements qui se déroulaient en même temps, selon Célien Milani. Le comité réfléchit déjà à des solutions pour les prochaines éditions, mais un changement de date semble difficile à imaginer. Célien Milani nous explique pourquoi.
C'est un petit peu toujours l'ambivalence de notre festival, c'est qu'à la fois ça doit se passer en fin d'année scolaire pour pouvoir avoir des écoles qui ont déjà eu la mise des notes, qui peuvent venir faire des courses d'école. Après, c'est sûr que du coup, la période est moins arrangeante pour peut-être des jeunes de la région qui devraient participer à des projets comme le parrainage ou les cartes blanches, ou à du public qui devrait venir voir alors qu'il fait beau. En général, on a toujours en plus l'Euro ou la Coupe du Monde qui tombe en même temps. Là, cette année, ben voilà, on a eu de la chance. Mais c'est déjà quelque chose qui est venu à l'idée, de se dire peut-être que le festival devrait se faire sur plusieurs périodes, en plusieurs temps, ou bien peut-être garder que la formule pour les classes et puis que le reste, ma foi, c'est du bonus. On n'est pas obligé de le faire comme ça, ou tout peut toujours évoluer, effectivement.
Un sujet de Lydiane Guenat. Si vous avez eu le sentiment d'avoir très chaud ces dernières semaines, c'est normal. Après celui de 2003, le mois de juin de cette année a été le deuxième plus chaud en Suisse depuis le début des mesures en 1864. C'est ce qu'indique aujourd'hui Météo Suisse. Les plus de 10 années de compte bénéficiaires de la Confédération, c'est terminé. Il faut revenir à la discipline budgétaire. C'est l'injonction faite aujourd'hui par le ministre des Finances, Ueli Maurer. Le budget 2023 de la Confédération est encore équilibré, mais le rouge s'installe dans la trésorerie fédérale à partir de 2024. Au-delà de ce qu'autorise le frein à l'endettement, en cause d'importantes nouvelles charges pour l'armée, notamment les explications à Berne de notre correspondant Serge Jubin.
Après l'invasion de l'Ukraine, le Parlement fédéral a adopté une motion qui veut augmenter notoirement le budget ordinaire de l'armée de 5 à 7 milliards de francs d'ici à 2030, selon les chiffres formulés lors des débats. Or, la motion fixe un autre objectif, les dépenses militaires doivent correspondre à 1% du produit intérieur brut en 2030. Le grand argentier Ueli Maurer a refait les calculs, ce 1% du PIB en 2030, ce ne sera pas 7, mais 9,4 milliards. Le budget militaire sera ainsi passé de 5,3 milliards aujourd'hui à 9,3 milliards dans 8 ans. À n'en pas douter, ce montant va interpeller. Ce d'autant qu'il est l'une des raisons principales du basculement dans le rouge du budget fédéral, selon la chef de l'administration fédérale des finances. Mais ce n'est pas la seule. L'accueil des réfugiés ukrainiens devrait coûter durablement 2 milliards par année. Les comptes projets aux initiatives sur les glaciers et sur les primes maladie coûteront plus d'un milliard supplémentaire à la Confédération.
Le franc est passé sous la parité avec l'euro cet après-midi à 17h08, très exactement. 1 euro coûtait 0,9991 francs. La dernière fois que les deux monnaies affichaient une valeur paritaire, c'était à la mi-janvier 2015, à la suite de l'abandon du taux plancher par la BNS. Les pays de l'OTAN ont assuré aujourd'hui que l'Ukraine pourrait compter sur leur soutien aussi longtemps que nécessaire face à la, je cite, cruauté de Moscou. La Russie qui, de son côté, a dénoncé le futur élargissement de l'Alliance à la Suède et à la Finlande, un élargissement qu'elle juge agressif et déstabilisateur.
Et à l'écoute d'RJB, il est 18h13.
Sport. Marc Hirschi participera finalement au Tour de France. Le cycliste bernois a été repêché par son équipe UAE Team Emirates aujourd'hui en raison du forfait de l'Italien Matteo Trentin, positif au Covid. Stéphane Bisseger prendra lui aussi le départ de la Grande Boucle vendredi. Le Turgovien, qui avait quitté le Tour de Suisse en raison du coronavirus, a pu présenter un test négatif et se rendra à Copenhague pour le départ du Tour de France avec son équipe EF Education. Pas de souci pour Novak Djokovic. Le joueur de tennis serbe s'est qualifié sans difficulté pour les 16e de finale de Wimbledon cet après-midi. Le triple tenant du titre du tournoi du Grand Chelem londonien a dominé l'Australien Thanasi Kokkinakis 6-1, 6-4, 6-2. Et le Norvégien Casper Ruud a pour sa part connu la défaite dès le deuxième tour à Londres. Le finaliste de Roland-Garros s'est incliné devant le Français Hugo Humbert 3-6, 6-2, 7-5, 6-4. C'est la fin de ce journal. Merci de votre écoute. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.